Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est l'histoire d'un jeune prodige, un surdoué du piano de confession juive, un homme dont toute la première partie de sa vie a été pour beaucoup de nos contemporains comme un rêve, puisqu'il fréquente le gratin du milieu culturel parisien. Une vie mondaine qui bascule pourtant de façon tout à fait inattendue alors qu'il joue de l'orgue dans une église. Il dit alors « Je fus frappé de l'idée subite de me faire catholique ». Une conversion foudroyante qui le conduit même à devenir religieux et fera de notre homme un prédicateur renommé, vantant à qui voulait l'entendre le secret bonheur qu'il avait trouvé, j'ai nommé Hermann Cohen. Hermann Cohen, élève de Litz, devenu carme, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, il y a du monde. Stéphane-Marie Morguin, vous êtes religieux carme, historien, auteur d'une biographie intitulée, rappelez-nous le titre de la biographie, Hermann Cohen, pardon, un romantique au Carmel, paru aux éditions Paroles et Silences, et un autre ouvrage qu'on parcourra, donc qui nous fera voir le bonheur, paru aux éditions du Carmel. Bonjour.
Bonjour.
Viviane Bruno-Chêne, vous êtes vierge consacrée du diocèse de C, vous êtes pianiste, concertiste et compositrice, bonjour.
Bonjour.
Et Yves-Marie du Saint-Sacrement, vous êtes religieux carme et vous êtes donc le vice-postulateur de la cause de béatification de l'homme dont on va parler de ce matin, bonjour.
Bonjour.
Voilà, parlez bien tous près du micro. On va donc découvrir cette belle figure. C'est une des richesses de cette émission. On fait un peu d'histoire et en même temps, on découvre des figures fort contemporaines. Hermann Cohen, donc, en est un ce matin. Émission motivée donc par une prochaine journée qui est vendredi, samedi prochain à Toulouse. On le redira sur cette figure. Alors, l'accroche était facile pour cette émission. C'est vrai que les jeunes prodiges, qui n'a pas regardé un jour sur Internet un jeune enfant, il y en a encore aujourd'hui, hein, de 5, 6, 7, 10 ans jouer du piano. Si on commence par ça, en commençant grand public, quand on dit que c'était un jeune prodige, Stéphane-Marie Morguin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'il a commencé à jouer du piano à 4 ans, à Hambourg, sa ville natale, et que dès l'âge de 10 ans, il commence à donner des concerts en Allemagne, avant de gagner Paris en 1834. Et à partir de 1834, il choisit Franz Liszt comme professeur et continue avec Franz Liszt sa carrière de pianiste, à la fois comme élève et comme concertiste. En 1836, il fonde avec Franz Liszt le Conservatoire de musique de Genève, où il a 15 ans, il commence à donner des cours de piano, il a une classe d'une dizaine d'élèves, et il va donner des concerts de piano jusqu'à sa conversion, jusqu'à 1847.
Alors, si on demande justement à la pianiste concertiste, je ne sais pas si vous êtes vous aussi une jeune prodige ou pas, mais juste si vous deviez mettre en perspective cela, des prodiges, il y en a toujours eu. Est-ce qu'on sait un petit peu, je ne sais pas, ce qui jouait ? Est-ce qu'on a trace aussi des œuvres qui jouaient dès son jeune âge, Viviane Bruno-Chêne ?
Alors, dans le cas d'Hermann Cohen, ce qui est très notable, c'est qu'il avait une facilité à improviser. Donc je pense qu'il devait avoir une très bonne oreille, probablement l'oreille absolue. Bon, c'est quelque chose qui est assez répandu parmi les musiciens, hein. D'ailleurs, moi-même, quand j'étais étudiante, mes camarades au conservatoire, on était nombreux à avoir l'oreille absolue.
Donc, en deux mots, c'est quoi l'oreille absolue déjà, pour ceux qui ne savent pas ?
C'est-à-dire que... Alors moi je disais quand j'étais petite, maman, les notes me disent leur nom. Et j'étais très étonnée que les autres n'entendaient pas les notes leur dire leur nom. Moi, quand j'entendais la bouilloire chanter, je lui disais, bah, tu vois, là, la bouilloire, elle me dit « si bémol !» Voilà. Et j'avais 3 à 4 ans, quoi. Hein, donc, je pense que le fait qu'il y avait un piano à la maison facilitait aussi ce repérage de la hauteur des sons qu'on entendait de manière absolue et non relative. Alors, après, il s'avère que c'est pas quelque chose de très utile, hein, en fait. Et la musicalité n'a rien à voir là-dedans. C'est juste une faculté, je pense, d'association. voilà, qu'on retrouve sur le clavier. Et Herman Cohen, non seulement je pense avait ça, puisqu'il était capable de rejouer des musiques qu'il avait entendues, mais en plus d'improviser. Donc avec une spontanéité, une facilité déconcertante.
Alors ça c'est pour la partie grand spectacle, mais néanmoins ça pose quand même un petit peu le personnage. Comme toujours, il est important donc de commencer par la famille. Là en l'occurrence c'est une famille juive. Donc pour rappel, l'homme dont on parle est né en 1820, il décède en 1871. Bien qu'il soit à bien des égards contemporain, on va le découvrir au long de cette émission et qu'il puisse nous parler encore aujourd'hui. Frère Stéphane-Marie, racontez-nous un peu ça. À quoi ressemble cette famille juive ?
Alors, c'est une famille juive donc, de Hambourg. Son père était négociant ou commerçant. Sa mère est également juive, d'un milieu plutôt libéral. Ils sont 6 enfants. Seuls 4 survivront. Son frère, il est le deuxième de la famille et il a une sœur, Henriette, qui épousera un lithographe juif également, Hermann Raunheim.
Alors quand vous dites des juifs libéraux, ça veut dire que c'était des gens qui étaient pieux,
Alors c'était des gens qui allaient à la synagogue. Il y avait deux types de synagogues à Hambourg à cette époque. Il y avait une synagogue qui était plus classique dans la liturgie et une autre plus libérale à laquelle appartenait la famille d'Hermann Cohen qui avait introduit l'allemand dans la liturgie. Et donc c'est plutôt à ce milieu-là qu'il appartient. Ce n'est pas une famille pratiquante, ce sont des juifs libéraux. Ils vont régulièrement à la synagogue, mais on ne peut pas dire que Hermann soit un juif pratiquant. Ce qui le touche dans le culte qui est très important pour lui, c'est la splendeur des liturgies, la solennité des liturgies synagogales, et qui vont beaucoup marquer la sensibilité d'Hermann. Et il se souvient, quand il parle de ça, de son passé dans le milieu juif hambourgeois, c'est cet aspect-là qui l'émeut profondément.
Alors, vous dites, vous vouliez ajouter quelque chose, non, frère Moïse?
Oui,
ça,
oui.
C'est comment je vous vois faire
oui,
un petit signe.
Je lève la main. Parce qu'il y a son fameux Ecce Panis Angelorum, hein, qu'on chante volontiers dans notre province, et qui, donc c'est un texte composé par saint Thomas d'Aquin, et qu'Hermann, donc une fois converti, va mettre en musique, mais en reprenant une mélodie juive, hein, qui est la mélodie, je crois, de l'hymne national d'Israël. Mmh. Donc on voit quand même qu'il a gardé des souvenirs, hein, de son enfance, hein, de sa culture juive, hein, qu'il garde et qu'il met au service de sa foi chrétienne une fois qu'il est converti.
Donc c'est un élève de Franz Liszt, vous l'avez dit, qui lui présente, donc on va pas peut-être énormément s'attarder sur cet aspect de sa vie, mais enfin qui lui présente un peu donc le milieu culturel parisien, certains milieux. J'ai lu que Georges Sand le surnommait le mélancolique Puzzi. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ce compagnonnage? Alors c'est un compagnonnage qui dure, hein, j'ai compris qu'ils se retrouvaient après, ils se sont retrouvés avec Franz Liszt une fois là converti. C'est un jeune homme qui quitte Paris quand même assez tôt pour grandir dans un univers un peu spécial, non, Stéphane-Marie?
Alors, il quitte Paris, il quitte Hambourg de force parce que les communautés juives sont persécutées à partir des années 1815-1820. La famille d'Hermann Cohen va subir un revers de fortune, le commerce va chuter, et donc pour survivre, Monsieur Cohen renvoie sa femme et trois de ses enfants à Paris pour échapper à la persécution. Et arrivé à Paris en 1834, Hermann avait des lettres de recommandation de son professeur de piano Schmidt. Et il arrive à Paris, il cherche un professeur de piano et on lui présente Franz Liszt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce au concert d'Hermann Cohen que la famille va survivre. C'est-à-dire que arrivé à Paris il y a une douzaine d'années, il va par son travail subvenir aux besoins matériels de sa famille.
Alors moi je parlais de la suite, hein. Pardon, je saute des étapes parce que je vois le temps qui passe, mais je dis que j'ai cru comprendre qu'à un moment il a suivi Leeds à l'étranger,
oui,
et là alors, qu'il se retrouve quand même dans une ambiance un peu spéciale, alors, loin de sa famille, et qu'il n'est pas si vieux que ça. C'est...
En fait, il a été adopté par Liszt, parce que Liszt a été séduit très profondément par la personnalité, par le génie d'Hermann Cohen. Et donc, Liszt va le prendre un peu comme son disciple et va l'emmener partout où il va, en France, en Angleterre, en Italie, en Suisse.
Donner des concerts avec lui.
Pour donner des concerts avec lui. Et Liszt vit dans un monde très, très ouvert du point de vue de la culture musicale, mais aussi littéraire. Et Hermann Cohen va s'insérer dans ce milieu-là, de Marie Dagou, de George Sand et de tant d'autres personnes, grâce à Franz Liszt. En fait, Franz Liszt ne se déplaçait jamais sans Hermann.
Alors, c'est un jeune homme qui vit une vie mondaine, ai-je lu, peut-être qu'on y reviendra après. Comme le temps court, j'aimerais qu'on en vienne maintenant à sa conversion. Donc, en 1847, il fait une expérience. Alors, j'ai cru comprendre, alors qu'il joue de manière assez inopinée, donc de l'orgue dans une église, et au moment de l'élévation du Saint-Sacrement. Donc, cet homme est profondément touché. Yves-Marie du Saint-Sacrement, racontez-nous cet électrochoc.
Exactement. C'est en mai 1847 que, pour rendre service, il remplace un de ses amis pour accompagner un chœur dans l'église Sainte-Valère à Paris, une église qui n'existe plus. Et c'est là qu'il nous dit qu'il est subjugué par la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Donc, mis à terre. Et donc, ça
mis
va
à terre, c'est les mots qu'il a utilisés ou...
Enfin, je ne sais plus
tout comme,
précisément,
peu importe.
Mais tout comme. Hein. Ouais. En tout cas, il se dira, je suis converti de l'Eucharistie. Ça, c'est son expression. Et ça va se faire sur plusieurs semaines, hein, puisqu'il allait chaque vendredi, dans ce mois de Marie, accompagner le chœur. Et elle va s'achever en août suivant, hein, à Ems, en Allemagne, où il participe à l'Eucharistie, hein, et là où il est définitivement converti, et donc il va demander à recevoir le baptême.
Voilà, j'ai cru comprendre qu'à ce moment-là, il aurait dit spontanément, spontanément comme par une intuition, je me mis à faire à Dieu une confession générale de toutes les énormes fautes commises depuis mon enfance. Oui. Je les voyais là étalées devant moi par milliers, hideuses, repoussantes, et cependant je sentis aussi un calme inconnu qui va répandre son baume sur mon âme. Et puis on pourrait continuer à lire.
C'est très important. Vous voyez, il constate ses péchés devant Dieu présent, mais il ne désespère pas. Il fait en même temps l'expérience de la miséricorde du Seigneur.
Alors cet homme donc devient religieux carme, c'est donc en octobre 1849, sous le nom donc d'Augustin Marie du Très-Saint-Sacrement. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa vie de carme après? J'ai vu que c'était donc un prédicateur fort connu. Si vous deviez un peu contextualiser, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'était un prédicateur connu, Stéphane Marie?
Alors, il est devenu prédicateur très tôt. Il est entré, comme vous l'avez dit, en 1849 au couvent d'Agen, puis il a fait son noviciat au couvent du Brousset, où il est enterré.
Donc près de Bordeaux,
Y reviendra. Et dès la fin de son noviciat, le début de ses études, il est sollicité pour prêcher. Pourquoi ? Parce que c'est une figure extrêmement célèbre en France. Sa conversion a été un choc dans la société qu'il fréquentait.
Parce qu'il était très connu comme pianiste aussi.
Comme pianiste, qu'il était très brillant, très mondain, très affable, tout le monde aimait sa compagnie. Et brutalement, il rentre dans un ordre qui, au XIXe siècle, était un ordre extrêmement sévère, très pauvre. Il rentre au Carmel. Et comme on l'a dit, ce musicien a une autre musicalité qui est celle de la prédication, et l'ordre va demander à Hermann de prêcher très tôt, à la fois parce qu'il est très, très compétent dans la prédication, et aussi parce que ça permettait à l'ordre, comme les dominicains l'ont fait avec Henri Lagordère, de faire connaître l'ordre. Il a été à la fois le prédicateur de l'Eucharistie, le prédicateur de sa propre conversion, de sa propre expérience, mais aussi le vecteur de une sorte de connaissance de l'ordre du Carmel qui était restauré en France depuis la Révolution, après la Révolution, que dans le début des années 40. Donc il est vraiment au début de la restauration du Carmel en France, et sa prédication va attirer effectivement des foules considérables. C'est-à-dire que ce n'est pas 200 personnes, c'est 1000, 2000, 5000 personnes qui assistent aux prédications enflammées du père Hermann, où on va peut-être en reparler sur le contenu de ces prédications, où il parle surtout de son expérience personnelle, de sa relation au Christ dans l'Eucharistie qui a bouleversé sa vie.
Allez, on va faire une première pause. Notre homme meurt donc en 1871. Aujourd'hui, donc, son procès en béatification a été ouvert. C'était en 2016, c'est ça, hein, Frère Marie,
oui.
Du Saint-Sacrement. On fait une première pause et puis on va découvrir plus avant cet homme. Donc, c'est le prédicateur qu'il a été et l'amoureux de l'Eucharistie. Ça parlera certainement à bien des auditeurs. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, je vous rappelle donc un ouvrage à lire, Hermann Cohen, un romantique au Carmel, paru aux éditions Parole et Silence. Et le rendez-vous donc samedi prochain, samedi 14 mars, une journée Hermann Cohen au Christ Roi à Toulouse, à partir de 9h, un site internet www.perhermann.org.
Emmanuel Pella.
Hermann Cohen, élève de Litz, devenu Carme, donc Franz Litz. C'est donc le thème de l'émission Vivant Église de ce matin autour du plateau pour nous en parler, pour ceux qui nous rejoindraient. Stéphane-Marie Morguin, religieux Carme, historien et auteur donc de quelques ouvrages sur cet homme, entre autres Hermann Cohen, un romantique au Carmel paru aux éditions Parole du Silence. Viviane Bruno-Chêne, qui est vierge consacrée du diocèse de C, pianiste et concertiste, et Yves-Marie du Saint-Sacrement, qui est religieux Carme, à Toulouse, vice-postulateur de la cause de béatification de cet homme. Allez, quand même, cause en béatification, qu'est-ce que c'est Yves-Marie du Saint-Sacrement, pour ceux qui ne sont pas totalement du bocal ?
Alors, nous croyons qu'il y a des saints au ciel, dès maintenant, qui attendent la résurrection de la chair, mais qui sont déjà dans le face-à-face avec le Seigneur, parce que le Seigneur les a accueillis, ils étaient prêts à paraître devant lui, à vivre pleinement en communion avec lui. C'est notre espérance à chacun d'entre nous. Et alors, l'Église s'est rendue compte au long des siècles que ces saints agissent en notre faveur, ils font des miracles. Et donc l'Église a pu ainsi dire, telle personne, nous sommes sûrs qu'il est déjà au ciel, nous pouvons demander son intercession, et c'est un exemple pour nous.
Alors là, c'est en chemin pour le Père Hermann.
C'est en chemin pour le Père Hermann, exactement. La cause a été ouverte en 2016, le 19 janvier. C'est le cardinal Ricard, qui était encore archevêque de Bordeaux, qui a bien voulu introduire cette cause dans son diocèse.
Cardinal Ricard qui sera donc présent samedi prochain.
Exactement, oui.
Donc il y a des éléments dans sa vie qui laissent entendre que c'est une il pourrait être déclaré
bien heureux exactement. Oui.
Alors la première chose sur laquelle vous vouliez insister, c'était donc le prédicateur qu'il a été. J'ai trouvé donc dans un ouvrage qui nous fera voir le bonheur, celui-là paru aux éditions du Carmel, qui sont donc des textes du père Hermann Cohen que vous avez donc sélectionné, frère Stéphane-Marie. Il y a un passage qui dit la chose suivante: très tôt ses qualités oratoires sont révélées par les critiques et il dit la chose suivante, donc on imagine que c'est un critique: il commençait comme beaucoup d'autres seraient heureux de finir. Voilà, c'est un peu rude d'entendre ça. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Vous citiez tout à l'heure Lacordaire, je crois qu'il avait été marqué par Lacordaire, un grand orateur à l'époque, c'était quoi?
Alors justement, Hermann se distingue de ces grands prédicateurs comme Cohen, Ravignan, jésuites, qui occupait les chaires de Notre-Dame, qui avait une prédication très structurée du point de vue théologique, développait différents points du dogme et qu'ils commentaient dans leur sermon. Hermann Cohen ne se situe pas à ce niveau-là. Hermann parle de lui-même, parle de sa propre expérience, qui traverse toute sa vie. C'est vraiment la quête fondamentale de la vie d'Hermann, depuis son enfance jusqu'à Spandau, là où il mourra à côté de Berlin, c'est de rechercher le bonheur. Il a cherché le bonheur.
On dit qu'il avait une prédication existentielle, j'ai lu.
Oui, c'est ça. Il a cherché le bonheur, il le dit très bien dans ses prédications. Il a cherché le bonheur dans le monde, dans ce milieu des faubourgs Saint-Germain qu'il a fréquenté avec Liszt, Georges Sand, Marie Dagout, etc., mais où il a rencontré quantité de gens. Il n'a pas trouvé le bonheur là. Il a trouvé le bonheur à Sainte-Valère, dans ce face-à-face avec l'hostie, l'Eucharistie, et à partir de là, il va prêcher que dans l'Eucharistie, dans le Christ Eucharistie, est le vrai bonheur. La source du bonheur est en Jésus-Christ. Et toute sa prédication, quelles qu'en soient les modalités, quels que soient les développements de sa prédication tout au long de sa vie de prédicateur, tourne autour de cette conviction qu'on ne trouve le bonheur qu'en Jésus-Christ.
Alors il y a même je ne sais pas si c'est un sermon, en tout cas vous citez donc dans votre livre qui nous fera voir le bonheur, donc aux éditions du Carmel, donc il y a un de ces sermons, et qui s'appelle La Petite Porte d'Or, justement, en parlant de l'Eucharistie. Mais je voudrais que vous nous parliez donc de ce qui est, semble-t-il, son sermon le plus connu, « Le bonheur n'est qu'en Dieu ». Donc à l'occasion d'une retraite en 1854, à l'église Saint-Sulpice, à la demande des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ce sermon, donc, semble-t-il, a énormément circulé. On pourrait en citer quelques passages. Donc il parle à la première personne.
Oui, toujours.
Pourquoi est-il si connu? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de « Le bonheur n'est qu'en Dieu »
Parce que, précisément, dans ce sermon sur le bonheur qu'il va reprendre à diverses reprises tout au long de sa vie, il parle de son expérience. Il prend son auditoire à témoin. Au fond, ce qu'il dit, c'est « Vous cherchez aussi le bonheur. J'ai cherché le bonheur dans les salons, j'ai cherché le bonheur dans la littérature, j'ai cherché le bonheur dans une certaine forme musicale, et je n'ai trouvé le bonheur qu'en Jésus-Christ. » Et sa prédication, c'est de dire « Vous tous qui cherchez le bonheur, eh bien, allez à Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, dans cette relation au Christ, vous trouverez le bonheur que vous cherchez, comme moi je l'ai trouvé. » Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Hermann, le converti, qui prêche. Quand il prêche à Saint-Sulpice...
Et il prêche quand même devant l'archevêque de Paris. J'imagine qu'à l'époque, parler à la première personne, c'était...
Non, parce que, encore une fois, il jouissait d'une telle notoriété, si vous voulez. À Saint-Sulpice, il y avait le tout Paris était là pour écouter ce père Hermann qu'ils avaient connu dans les salons du faubourg Saint-Germain. Il était très courtisé, il aimait aussi beaucoup les relations féminines, il connaissait la valeur de son charme, un peu comme Franz Liszt, et c'est à cet auditoire-là qu'il parle. Il voit, moi j'ai vécu dans ce monde-là, j'ai cherché le bonheur dans ce monde-là, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai trouvé qu'en Jésus-Christ. Et donc,
d'où la notoriété de ce discours.
Oui, et surtout parce que ça a provoqué des conversions, ça a aidé les gens à prendre conscience qu'effectivement, le bonheur qu'ils cherchaient dans le monde, ils ne le trouvaient pas, et que peut-être, comme Hermann, ils pourraient le trouver en Jésus-Christ.
Alors je cite des passages, et vous mes frères, donc de ce sermon qu'il a adressé, qui a eu donc ces répercussions que vous venez de mentionner, et vous mes frères, l'avez-vous trouvé? Êtes-vous heureux? Ne vous manque-t-il pas? Un peu plus loin, d'où vient donc mes frères que tous, étant créés pour le bonheur, un si petit nombre seulement parviennent à une félicité tant désirée? Et puis il a un certain nombre d'adresses où il parle de manière très simple. Je cherche le passage et du coup je m'en mêle les pinceaux parce que c'est un peu long, mais bref, en tout cas il y a des adresses à l'égard des personnes présentes. Il parle de manière très, très directe. Pour ce qui est de sa prédication, qu'est-ce que vous pourriez ajouter, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter? Donc le bonheur, c'est son thème, c'est son fil conducteur. Il y a aussi un autre passage où il parle du secret de Joseph. Alors je ne sais pas si on peut en parler, mais moi ça m'a frappé.
Oui.
On a l'impression que c'est un homme aussi qui a passé après toute sa vie religieuse, à la fois à prêcher et en même temps à se désoler que Dieu soit si peu aimé,
oui,
et que le cri qu'il avait à lancer soit si peu entendu.
Oui, tout à fait. C'est à force de prêcher sur ce bonheur qu'il déclare dans les années 1856 que Jésus n'est pas aimé. Voilà. Et donc il va. C'est toujours. C'est un peu le. C'est l'aspect le plus contemporain d'Hermann, c'est que, parlant de sa propre expérience, prenant son auditoire à témoin, il provoque son auditoire à se mouvoir, à changer, à se convertir. Et si Jésus n'est pas aimé, pourquoi est-ce que vous ne l'aimez pas? Vous, chrétiens, vous, catholiques, qui venez à l'office, qui suivez l'Eucharistie, qui participez à l'Eucharistie, pourquoi vous, en premier, vous n'êtes pas ceux qui aiment Jésus-Christ comme il doit être aimé? Et il est d'une sorte de, il le dit, il parle de vengeance, hein, de cette vengeance de l'amour du fidèle qui va aimer Jésus-Christ comme il doit être aimé. Voilà.
Viviane Brunochen, parlez-nous du concertiste qu'il a été après donc sa conversion, puisque je l'ai découvert ce matin avec vous, je ne l'avais pas compris, il a continué à jouer. Et ça, c'était, me semble-t-il, une manière pour lui aussi de prêcher. Expliquez-nous.
Alors, tout à fait. Il n'a pas continué à donner des concerts de piano au sens, où il l'avait fait avant sa conversion en compagnie de Franz Liszt. Hein, il n'a pas continué cela. Par contre, une fois rentré en religion, Il a été même encouragé par son père spirituel, hein, le père Dominique de Saint-Joseph, à composer. Donc à ne pas enfouir son talent musical, mais au contraire, à le mettre au service de la gloire de Dieu. Et ça a été toute une partie de son apostolat, la composition de cantiques spirituels. Voilà.
Il composait et d'autres jouaient pour lui, lui ne jouait pas ?
Si, lui il jouait alors... très souvent à l'orgue, bien sûr. Il se mettait encore volontiers au piano parce qu'il voyageait énormément. Hein, donc, c'était quelqu'un de très demandé pour prêcher des retraites, pour voilà, toutes sortes de publics, y compris des cours princières, voilà, des milieux très aristocratiques où voilà, il pouvait arriver dans un salon avec un piano en habit de carme. On l'invitait à se mettre à l'instrument et il le faisait toujours de bon cœur. Donc, il jouait encore du piano dans ces circonstances-là. Mais... ce qui arrivait le plus souvent, c'est que après la prédication dans une église devant une foule nombreuse, tout de suite après avoir parlé, il montait à la tribune, il se mettait à l'orgue. Donc voilà, il avait plusieurs casquettes.
Comme pour illustrer sa prédication autrement, c'est ça ?
Absolument, absolument. Et je dirais que tout ça, en fait, forme une très très belle unité, puisque à la fois son inspiration musicale, il la puisait dans sa vie contemplative, et il dira au moment où, un petit peu avant sa mort, il a fait une retraite assez prolongée au Saint-Désert, de Tarasteix, voilà, que c'est à ce moment-là qu'il a été le plus inspiré pour composer. Et d'ailleurs, c'est avec cette période de retraite que coïncide la composition de probablement son recueil le plus inspiré, hein, qui est le Tabor, recueil de cantiques. Donc on voit bien où il puisait l'inspiration musicale pour écrire. Et en même temps, cette musique, elle était faite pour être donnée, tout comme sa prédication était faite pour être donnée comme une nourriture, hein, au peuple qui était là pour l'écouter, aussi bien prêcher que jouer.
Je vois le temps qui passe. J'aimerais qu'on parle de l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, donc source et sommet de la vie chrétienne, a-t-on l'habitude d'entendre quand on est chrétien et pratiquant. Néanmoins, j'ai jamais fait de sondage, mais je n'ai jamais lu surtout. Je pense que pour un certain nombre de fidèles, l'Eucharistie reste un mystère à découvrir. Vous qui avez choisi presque le même nom religieux, Yves-Marie du Saint-Sacrement, que le Père Herman Cohen, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ? Peut-être parler de ce sermon, la petite porte d'or, le secret par excellence qu'avait découvert le Père Herman, c'est donc l'Eucharistie. Parmi toutes les choses que vous avez lues, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qui pourrait nous parler ?
Alors si vous voulez, oui, l'Eucharistie c'est un profond mystère puisque c'est Dieu lui-même qui se donne. Donc sous des apparences toutes simples, hein, l'apparence d'un morceau de pain, c'est Dieu lui-même, hein, qui est là, présent, qui s'offre à nous, hein, à notre contemplation, à notre communion. Hein. Alors,
il y a de multiples sermons où il en parle. Est-ce que la petite porte d'or, vous pourriez nous dire quelques mots ? Je peux l'introduire. Par une nuit d'orage, je me trouve engagé dans une chaîne de montagnes escarpées, bordée de toutes parts d'affreux précipices, dit le Père Herman. Et puis donc il décrit une situation périlleuse. Et là, tout à coup, un sillon de lumière parti du ciel vient frapper le côté d'une montagne voisine et me montre dans l'enfoncement de granit une porte d'or.
Voilà, donc cette porte d'or, c'est la porte du tabernacle. Hein, et c'est une façon imagée de décrire l'état de sa vie, hein, au moment de sa conversion. Hein. Et vous voyez, dans la pédagogie de Dieu, hein, le Seigneur s'adapte à nous, vraiment. Hein. Quand il se présente à nous dans l'Eucharistie, c'est parce qu'il veut toucher nos sens d'abord. Hein. Le Père Stéphane-Marie nous a bien dit au début que Herman, c'est un artiste, il est très touché par la beauté de la liturgie, la grandeur de la liturgie, qui touche ses sens, hein, son regard. Hein. Il sent l'encens, il entend les chants. Hein, et tout cela entoure l'Eucharistie. Hein. Et ce culte eucharistique, eh bien, va toucher notre sensibilité, d'ailleurs.
Donc hein. Dieu le prend comme il est.
Dieu le prend comme il est, voilà. Et il le conduit plus loin. Hein, parce que ce qui est très important, c'est de noter la persévérance, hein, d'Hermann dans sa fidélité au Christ, dans sa vocation, hein, puisqu'il va mourir quand même en soignant des soldats blessés à Berlin.
Pendant la guerre, donc,
pendant la guerre franco-prussienne.
1871. Oui. Alors justement, à propos de l'Eucharistie, on pourrait citer d'autres passages, et je vais le faire. Donc il y a bien des sermons sur l'Eucharistie, il y en a même un qui s'appelle « La mort devant l'Eucharistie », « La Sainte Communion, voilà ma sauvegarde, et je ne demande qu'une chose à ce grand Dieu si plein d'amour, c'est de m'accorder à l'heure de ma mort cette grâce inestimable de pouvoir communier le saint viatique du pauvre voyageur », on pourrait citer bien des passages. C'est quelqu'un qui a reçu donc quand même une grâce particulière, semble-t-il, à plusieurs reprises, de prendre conscience très profondément de la présence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie. Mais on a l'impression que c'est une grâce qui n'a pas passé, en fait, qui n'est pas passée, parce que parfois, certains la reçoivent, et derrière, c'est le désert et la nuit, et on se souvient de cet éblouissement. Lui, on a l'impression qu'il a vécu de cet éblouissement, frère Stéphane-Marie.
Et jusqu'à la fin. Jusqu'à...
C'est une grâce particulière, on peut
jusqu'à
dire.
Jusqu'à sa mort, jusqu'à quand il meurt de la variole au camp de Spandau, près de Berlin, en soignant les soldats français prisonniers des Prussiens. Sa grande angoisse, c'était de mourir sans recevoir l'Eucharistie. Il a vécu de cette Eucharistie qui était le lieu, le sacrement par lequel il pouvait vivre une communion la plus intense avec celui qui est la source du bonheur. Il n'y a pas de séparation entre le bonheur et l'Eucharistie. Le bonheur, c'est vraiment Jésus-Eucharistie. C'est là qu'il a trouvé tout son dynamisme, toute sa force, toute sa fidélité dans cette relation intime qu'il trouve dans le sacrement de l'Eucharistie.
Alors, est-ce pour ça, frère Yves-Marie du Saint-Sacrement, qu'aussi sa cause en béatification serait poussée ? Aujourd'hui, il y a un renouveau depuis un certain nombre d'années de l'adoration eucharistique.
Exactement, exactement.
Ça peut parler à un nombre de contemporains.
Tout à fait. Hein. Il y a un renouveau de l'adoration eucharistique, de l'adoration nocturne. Hein. Donc ça, il faut le noter parce que c'est une œuvre dont il est en grande partie l'auteur. Hein. C'est l'adoration nocturne pour les hommes. Hein. À l'époque, hein, l'adoration nocturne n'était pas mixte. Hein, il y avait des groupes de femmes qui pouvaient adorer. Hein, et on a gardé le souvenir de cet épisode assez comique, hein, où il va un soir prier, là, dans une chapelle où il y avait l'église, et puis c'était au Carmel de la rue d'Enfer à Paris, et à un moment, la sœur Tourière lui dit « Écoutez, monsieur, il faut vous retirer ». Et il dit « Mais comment se fait-il? Il y a des dames là qui restent ?»« Eh bien oui, elles restent toute la nuit pour l'adoration nocturne ». Et alors il se dit « Mais alors comment ça se fait? Les femmes peuvent adorer la nuit, et nous on ne peut pas ». Et c'est ainsi qu'il a fondé l'adoration nocturne pour les hommes. Et comme il avait beaucoup de relations, des amitiés, François de la Bouillerie, eh bien, il a pu ainsi monter cette adoration nocturne pour les hommes, qui s'est beaucoup répandue à Paris, dans toute la France. On sait par exemple que Saint Louis Martin, le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, faisait partie de l'adoration nocturne à Alençon.
Racontez aussi cet épisode où en 1848, à l'occasion d'événements bien difficiles en France, lui, il fait le choix à ce moment-là
De la prière, l'adoration. Hein. La première nuit d'adoration,
c'était au moment de la commune, donc c'est
ça. Voilà, a lieu le 6 décembre. Alors non, la commune, c'était après. Hein.
Ah pardon, oui.
C'était pendant la révolution de 1848.
Hein.
Le 6 décembre 1848, à l'église Notre-Dame des Victoires, d'ailleurs il y a une plaque qui commémore cet événement, première nuit d'adoration à Paris. Hein. Et qui va se répandre. Et d'ailleurs, vous savez, l'adoration à Montmartre, eh bien, elle a commencé avec des membres de ce groupe d'adorateurs nocturnes. Hermann était déjà décédé à l'époque, mais vous voyez, c'est un petit peu un rameau qui est issu de ce
adoration
groupe.
Nocturne, donc, qui, sauf erreur de ma part, à Montmartre, dure depuis maintenant presque 150 ans sans interruption.
Exactement.
Je finirai en citant toujours le père Hermann dans son fameux sermon qui nous fera voir le bonheur. « J'aime Jésus-Christ et je voudrais que ses murs puissent s'élargir jusqu'à l'infini et envelopper tous ces millions d'hommes qui couvrent le monde et que ma voix puisse atteindre, puis pénétrer leur cœur, les faire vibrer à l'unisson avec le mien, dans un écho immense, dans un dans une magnifique jubilation de triomphe. Bref, cet homme qui avait découvert un tel secret qu'il ne pouvait choisir presque que de crier dans le silence. C'est l'impression que ça peut donner à lire donc, ces quelques ouvrages. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Je rappelle pour ceux qui nous quitteraient, un livre à lire, Hermann, un romantique au Carmel, paru aux éditions Parole et Silence. Et donc, samedi prochain à Toulouse, une journée Hermann Cohen. Ça commence dès 9h. Ça sera entre autres en présence du cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux. Un site internet www.perhermann.org.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Hermann Cohen, ce disciple de Litz devenu Carme, c'est pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient, le thème de l'émission Vivante Église. Autour du plateau, deux religieux, Stéphane-Marie Morguin et Yves-Marie du Saint-Sacrement. Vous êtes tous deux donc religieux Carme. Stéphane-Marie, vous êtes historien et Yves-Marie, vous êtes donc le vice-postulateur de la cause de béatification de l'homme dont on parle ce matin. Et avec nous aussi Viviane Bruno-Chêne, vierge consacrée et pianiste concertiste. Alors, vouliez-nous dire un mot de ce qu'on vient d'écouter ?
Avec plaisir. Donc, c'est un extrait de mon album qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle Étoile des mers, qui regroupe différentes œuvres que j'ai voulu rassembler un petit peu comme un hommage secret à la Vierge Marie. Et donc, le thème, je pense, beaucoup l'ont reconnu, il s'agit de l'Ave Maria de Schubert, et ici, dans la transcription pour piano de Franz Liszt. Donc, un clin d'œil aussi à ce grand génie musical qui a été une figure importante dans la vie d'Hermann Cohen.
Alors, vous donnerez un concert, je le dirai à la fin de l'émission, à l'occasion donc, de cette prochaine journée sur le Père Hermann. Dans cette dernière partie de l'émission, comme de coutume, quand on parle comme ça d'une figure, dites-nous, et on va commencer par vous, Viviane Bruno-Chêne, dites-nous pourquoi cet homme vous parle tant, pourquoi vous êtes là ce matin, entre autres.
Alors pourquoi je suis là ce matin ? D'abord, je voudrais remercier mes frères Carmes ici présents. Voilà, c'est grâce à eux que je suis là. Et pourquoi le père Hermann me touche ? Alors, je voudrais vous parler de quelque chose d'assez singulier dans mon parcours. Il se trouve que, j'ai été convertie à l'âge adulte, moi aussi, en grande partie grâce à l'Eucharistie. Donc déjà un point commun avec le père Hermann et que, à l'époque de mon baptême, j'habitais à Paris une petite chambre que j'ai su par la suite être situé à l'adresse précise où lui-même a reçu le baptême. Donc c'était assez fort. À l'époque de mon baptême, je ne connaissais pas le père Hermann. Je l'ai rencontré après seulement. Et quand j'ai remarqué cette coïncidence, voilà, j'ai été extrêmement touchée parce que j'avais la conviction intime dans mon cœur qu'il intercédait pour moi déjà depuis longtemps et que probablement il avait joué un rôle considérable dans... dans ma conversion.
Et au-delà de ce lien invisible, qu'est-ce qui vous touche ou vous frappe? C'est le pianiste qu'il a été, la manière qu'il avait de parler de Dieu par la musique, ou est-ce que c'est ses sermons?
Alors, il y a tout ça, mais je crois que ce qui me touche le plus, c'est l'unité de sa vie. L'unité entre l'artiste et le religieux. Voilà, il n'y a jamais eu de conflit, en tout cas pas que j'ai pu constater à travers les lectures que j'ai faites. Tout ça a été vécu de manière extrêmement paisible. Je pense que son père spirituel l'a beaucoup aidé dans ce sens aussi. Cette vie consacrée, cette vie religieuse, loin d'éteindre en lui la sensibilité et la flamme artistique, l'a fait porter du fruit au-delà de ce qu'il aurait fait en restant dans le monde, très probablement. Et il a pu atteindre des cœurs, notamment dans des couches plus populaires de la société, qu'il n'aurait peut-être pas pu atteindre en restant ce qu'il était en tant que pianiste concertiste seulement.
Voilà, me revient une phrase de Benoît XVI, je crois, Dieu, le Christ n'enlève rien, mais il donne tout. Hein. Il ne vient pas effacer l'homme que l'on est. Stéphane-Marie, même question, je ne ferai pas le tour du plateau, mais on imagine que si vous avez consacré beaucoup de temps à ce père Hermann, c'est peut-être pas seulement par obéissance, parce qu'un jour on vous a peut-être demandé de travailler sur cette figure. Qu'est-ce qui vous parle chez cet homme?
Alors, effectivement, c'est par obéissance que j'ai commencé à travailler.
Je m'en doutais.
À travailler Hermann. J'ai dû m'approprier, apprendre à le connaître, à le fréquenter. Je l'ai fréquenté pendant plusieurs années à travers les documents, les lieux. Ce qui me frappe, bien sûr, la cohérence de vie, le lien entre la vie artistique, le piano, la musique, la prédication. Ce qui me touche le plus maintenant que le travail est terminé, c'est... la cohérence de la vie religieuse inscrite dans une incohérence, c'est-à-dire la cohérence d'un attachement au Christ et à l'obéissance à ses supérieurs, alors qu'il vivait d'une manière complètement différente des autres frères de la province d'Aquitaine qui restaient...
Il avait un régime un peu exceptionnel, c'est ça?
Oui,
c'est...
parce que c'est un être exceptionnel. Et... Il va prêcher en France, mais il va prêcher beaucoup en Allemagne, il va prêcher beaucoup en Belgique, il va prêcher beaucoup à Rome, en Italie. Et puis, il va fonder, à la demande du cardinal Wiseman, le Carmel de Kensington à Londres en 1862, précisément parce que Hermann, le cardinal Wiseman, l'archevêque de Londres, voulait restaurer le catholicisme dans son diocèse par la médiation de la dévotion eucharistique. Et à chaque fois que Hermann fonde un couvent, parce qu'il a fondé un certain nombre de couvents en France et à Londres, il fonde toujours un couvent autour de la vie carmélitaine et d'une dévotion particulière à l'Eucharistie.
Mais alors, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous qu'est-ce que ça vous dit à vous et qu'est-ce que ça peut nous dire à nous donc cette cohérence à l'intérieur d'une apparente incohérence, je ne sais pas.
C'est... Alors, ce qui me semble important, c'est l'obstination de la grâce. Au fond, quand il va mourir à Spandau, la grâce de Spandau, de sa mort à Spandau, au milieu des prisonniers français, est le plein épanouissement de la grâce de 1847. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement celui qui reçoit une grâce eucharistique et qui vit de la grâce eucharistique, il devient lui-même offrande eucharistique, puisqu'il offre sa vie pour soigner ceux qui sont malades, comme le Christ est venu pour soigner ceux qui étaient mal portants.
Donc obstination de la grâce, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'à travers
pas tout... d'inquiétude quand vous êtes saisi, quelqu'un s'occupe de vous, c'est
oui,
ça ?
Oui, exactement. Même si dans votre vie se déroule d'une manière qui peut sembler extérieurement très incohérente, la grâce qui a été donnée ne se dédie jamais et suit son cours jusqu'à son plein achèvement. Et Hermann est vraiment l'exemple de cette obstination de la grâce, parce qu'il aurait très bien pu, après être rentré au Carmel en 1849, rester au couvent du Brousset ou à Avon ou à Agen ou dans un autre couvent comme un simple religieux. Au fond, il a été propulsé à l'extérieur dans une vie qui est complètement hors norme par rapport à la vie habituelle des Carmes. Et malgré cela, au terme de sa vie, il retourne à Tarastex, où il va retrouver cette vie primitive, celle qu'il a connue au noviciat, et finalement s'épanouir dans la grâce de Spandau, qui est l'épanouissement de la grâce de 47, l'offrande de sa vie, comme le Christ a offert sa vie.
Pour finir, donc je donnerai tous les détails pour le rendez-vous de vendredi soir et de samedi, les ouvrages. J'aimerais juste que vous nous disiez un mot, frère Yves-Marie du Saint-Sacrement. Donc, sa cause en béatification donc, est en cours. Sa tombe, on peut la trouver donc, au couvent de Brousset, donc c'est au large de Bordeaux. Faut-il prier Yves-Marie du Saint-Sacrement, pas encore. Faut-il prier le Père Hermann ? Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mot ? C'est le moment de...
Ah oui, ben écoutez, si vous avez reçu des grâces...
Tout le monde n'est pas sensible à la communion des saints, alors qu'est-ce que vous pourriez nous,
écoutez, si
nous
vous...
dire sur le sujet ?
Je pense que, oui, il faut le prier, il faut lui demander son intercession. Hein, c'est ça qui pourra attester de sa sainteté. Hein, si on le prie, et puis si on reçoit des grâces par son intercession, et même des miracles, eh bien, voilà, ce sera la preuve. Et donc l'Église, à ce moment-là, pourra le mettre sur les autels. Hein, et donc,
alors le couvent de Brousset, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est
vous pouvez dire
quelques mots ? Dans la campagne bordelaise, hein, à une demi-heure de Bordeaux, à peu près, hein, à Rions. Et donc c'est là, dans l'église du monastère, que nous avons remis le tombeau d'Hermann, hein, puisqu'il est mort et il était enterré à Berlin jusqu'au début de ce siècle.
Eh bien, merci beaucoup. Les informations, donc, deux livres, Hermann Cohen, un romantique au Carmel, paru aux éditions Parole et Silence, qui nous fera voir le bonheur, point d'interrogation, aux éditions du Carmel, et deux rendez-vous. Vendredi soir, Viviane Brunochen, vous serez donc au piano pour un récital intitulé Hermann Cohen, musicien en son temps. C'est à 20h30 à l'église des Carmes à Toulouse, ce vendredi. Et samedi prochain, donc cette journée Hermann Cohen, le 14 mars, le lendemain, donc, dès 9h, de 9h à 17h, en présence entre autres du cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, et messe à 11h15, le samedi 14 mars, donc au Christ-Roi à Toulouse. Vous l'y ajoutez ? Non, voilà. J'ai tout dit. Un site internet, je le rappelle, pour ceux qui voudraient se rafraîchir les idées ou avoir toutes ces informations de manière plus précise, www.perhermann.org. Un grand merci à vous d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.